Beaumarchais, un aventurier de la liberté. Par Éric Orsenna. Aujourd'hui, un homme de service secret.
Avant de cavaler vers Madrid, Beaumarchais avait réussi en peu d'années à s'introduire dans les cercles les plus fermés du pouvoir. Imaginez qu'il s'était fait aimer de Choiseul soi-même, le plus grand des ministres, lequel n'avait qu'une obsession, rabattre le caquet de l'Angleterre. Notamment en retissant des liens étroits entre les deux branches des Bourbons, les Bourbons de France et les Bourbons d'Espagne. Le moment était venu d'envoyer à Madrid un émissaire secret, et pourquoi pas ce Beaumarchais? Si brillant, si charmant, si séducteur, si travailleur. Pas diplomate professionnel, certes, ni espion, mais en ayant déjà les qualités. Et c'est ainsi que naît notre soupçon. Et si la version du frère chevaleresque, courant sauver l'honneur bafoué de sa sœur, n'était qu'une couverture? Et si la raison de cette expédition était plus d'ordre géopolitique que familial? Poursuivant notre réflexion et commençant à connaître un peu mieux notre personnage, l'évidence nous vient sous forme d'une question: pourquoi choisir? Et si les deux explications du voyage à Madrid s'ajoutaient l'une à l'autre? Dans l'histoire récente de notre pays, nous avons vu un jeune inconnu se faire élire président sur la base d'un programme qui tenait en trois mots. Ils conviennent tout à fait à Beaumarchais, ils pourraient même lui servir de devise: en même temps. En même temps la droite, en même temps la gauche, pour Emmanuel Macron, en même temps chevalier, en même temps envoyé spécial, pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Une fois lancée la mécanique attrape-tout du en même temps, vous ne pouvez plus l'arrêter. Et si notre héros avait été d'abord envoyé à Madrid par son mentor Paris Duvernet? Le financier avait des affaires là-bas, et d'autres bien plus vastes à lancer. À qui d'autre qu'à son quasi-fils adoptif confier l'ouverture du marché espagnol et de ses colonies? La Louisiane, par exemple, immense territoire, possession dédaignée des monarques espagnols. Pourquoi ne pas nous en accorder la concession? Nous saurions, dans l'intérêt commun, en tirer de satisfaisants bénéfices. Et votre armée, chers amis espagnols, votre armée, mais chacun sait qu'elle est mal équipée, comment pourra-t-elle remplir sa mission dans les temps dangereux qui s'annoncent? La fourniture aux armées, notre cœur de métier, nous sommes prêts. Tels étaient les messages que Beaumarchais avait mission de porter. Pour ce faire, il lui fallait des contacts. Rien n'est plus aisé pour lui, comme à son habitude, une fois ses deux sœurs réconfortées, il allait s'occuper à séduire. En commençant par la marquise de la Croix, femme du gouverneur de la Galice et ancienne maîtresse, disait-on, du cardinal Acquaviva. À peine rencontrés, les deux, d'un premier coup d'œil, se reconnaissent de même race, aventurière et gourmande. Un passage par le lit leur permet de vérifier cette intuition première. Les voilà complices. Beaumarchais poursuit son entreprise de charme auprès des ambassadeurs. Mention spéciale pour les représentants de la Sainte-Russie, le délicieux couple Buturlin. Nous n'irons pas jusqu'à dire que l'ambassadeur et comte était un mari complaisant, mais son épouse bâillait tellement les soirs où ne venait pas dîner l'incomparable animateur Beaumarchais. Les semaines passent. Et rien n'arrive. Les ministres espagnols reçoivent le français, ils lui sourient, ils lui promettent tout ce qu'on veut et ne décident pas. De cette langueur administrative, l'air ambiant est certes coupable, il fait si beau, il fait si chaud, et on ne pense qu'à la sieste et à aimer. D'autres raisons plus sérieuses expliquent ces atermoiements. L'Espagne ne veut pas trop défier l'Angleterre, qui prendrait la mouche de trop belles faveurs accordées à des Français. Pourtant, Beaumarchais n'avait pas ménagé sa peine ni les vives sources de son imagination. À force de longues conversations d'alcôve, il avait fini par convaincre sa marquise bien-aimée, Madame de la Croix, de se donner au roi. Coucher n'est-il pas le moyen le plus sûr pour exercer de l'influence? Les favorites françaises avaient montré l'exemple. La dame se met donc au travail. À chaque réception, regards appuyés, démarches alanguies, allusions transparentes, Madame Delacroix sait y faire pour aguicher. si Charles III est sans doute le seul homme prude de son royaume, c'est qu'il vit dans le souvenir éploré de sa défunte épouse. Mais cette fois, il semble intéressé. Poussé par son seul vrai confident, son valet-chambre, il invite la belle dame dans sa résidence très privée de Saint-Ildefonse. Rendez-vous est arrangé pour le soir, la marquise se prépare, les heures passent, point de monarque. Pris de panique, il s'est réfugié dans sa chambre. Au matin, il présente ses excuses. Une nouvelle rencontre est décidée, nouvelle dérobade. Au bout d'une semaine de ce petit jeu, la marquise quitte le palais furieuse. Jamais, jamais, jusqu'à ce jour, personne n'avait dédaigné le cadeau de son corps. Beaumarchais ronge son frein, mais engrange. S'il n'a pas logé son barbier à Madrid, c'est à cette douzaine de mois passés dans la capitale espagnole qu'il doit les si réjouissantes espagnolades de sa pièce. Et pour un musicien comme lui, l'oreille est chaque soir à la fête et s'enchante de guitare. Comme tout le monde y danse, séguedille et fandango, gens du peuple ou comtes et comtesses, domestiques, notaires et fonctionnaires, on dirait que tous les personnages de ses futures pièces se sont donné rendez-vous dans la rue pour lui entrer dans la mémoire. Les missions à lui confiées, diplomatiques et commerciales, s'achèvent sur le plus complet des échecs. Mais en même temps se mitonne son triomphe théâtral futur. L'entrepreneur en lui ne décolère pas. Le reste de sa vie durant, il va détester l'Espagne et les Espagnols. Malgré sa gesticulation de séducteur professionnel, tous les contrats escomptés ont été confiés à d'autres. Mais l'artiste entretient avec le temps une relation singulière. Si l'homme d'affaires veut des résultats tout de suite, le créateur est recycleur dans l'âme. C'est un alchimiste de la métamorphose. Rien n'est déchet pour lui. Il suffit que passent les années, la plus cruelle des défaites lui devient victoire, l'aigreur de la rebuffade se change en le miel du succès et le silence de la tristesse se couvre d'applaudissements. Accueilli dans une ville, emprisonné dans l'autre et partout supérieur aux événements. Qui t'a donné une philosophie si gaie? L'habitude du malheur, je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Le barbier de Séville, acte 1, scène 3.
Raso di pettine, lancia di forbice, mio comando tutto questa. Raso di pettine, lancia di forbice, al mio comando tutto questa. E la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 lira. Col cavaliere, la 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 la
tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, torna ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, 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 Figaro. Ahimè, ahimè, che pure ahimè, che volta uva la volta, per carità, per carità, uva la volta, uva alla volta, uva alla volta, per carità. Figaro, so qua, ehi, Figaro, so qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto moltissimo sono il cuore di sogno per cuore della città, della città, della città, della città, della città.
Homme insolent s'il en est, Beaumarchais se soucie fort de sa respectabilité. D'avoir été ainsi blâmé le hante, seul le roi peut lever la sanction. Le prince de Conti sert d'intermédiaire et lui propose une mission. Se rendre secrètement à Londres, un maître chanteur doit y être empêché de continuer à nuire. Pour se faire pardonner, notre ami est prêt à tout, et cette nouvelle activité n'est pas pour lui déplaire. L'Angleterre est alors le refuge de toutes sortes de personnages plus ou moins recommandables. Elle accueille notamment ceux qui veulent publier des ouvrages sulfureux, parmi lesquels un certain Charles Thévenot de Morande, qui a le projet de faire paraître des mémoires secrets d'une femme publique, en fait le récit, bien sûr non autorisé, de l'existence de la Du Barry, la favorite en titre. Cocasserie de la situation, Beaumarchais, condamné en France pour sa liberté excessive, se retrouve de l'autre côté de la Manche pour exercer la censure. Ce Morande est une crapule. Ayant commencé sa carrière par des vols, et des vols de montres, figurez-vous. Il a connu la prison, laquelle était déjà la meilleure des demeures pour s'y faire des relations utiles. Suite à divers autres méfaits, il se voit contraint de quitter précipitamment la France. À Londres, il vient de lancer une feuille à Ragot, le gazetier armé. Beaumarchais le rencontre, le menace, puis l'enrôle, non sans l'avoir dédommagé. Les mémoires secrets sont brûlés, la Du Barry sera satisfaite. C'est alors que, début mai 1774, meurt Louis XV, vaincu par la variole. Son petit-fils lui succède. Ce Louis XVI de 20 ans est lourdaud, lent, privé de charme, terrorisé par la chair, ennemi des plaisirs, en un mot, l'inverse de notre dramaturge. Inutile d'attendre de lui le plus petit soutien, pas même le remboursement de ce voyage à Londres. De nouveau, Beaumarchais se retrouve sans ressources ni emploi. Son ami Sartine, toujours chef de la police, lui revient en aide. Une deuxième mission est proposée à cet agent secret qui, quoique débutant, a prouvé son efficacité. D'après les informations reçues à Paris, une nouvelle publication se prépare à Londres, tout aussi odieuse que la précédente. Elle attaque les proches du roi et d'abord son épouse, Marie-Antoinette. La feuille de route est simple, débrouillez-vous comme vous voulez, ce libelle au titre embrouillé ne doit pas voir le jour. Et voilà le titre. Dissertation extraite d'un plus grand ouvrage, avis important à la branche espagnole sur ses droits à la couronne de France à défaut d'héritier, et qui peut être utile à toute la famille de Bourbon. Beaumarchais constitue son équipe, un jeune aristocrate, fou d'admiration pour lui et qui désormais ne le quittera plus, Paul-Philippe Gudin de la Brénellerie. Et Morande, son ex-cible, la crapule, devenue son complice, infiniment précieux pour ses connaissances dans les milieux les plus glauques. Le trio improbable arpente la nuit les bas-fonds de la ville, à la recherche de l'auteur présumé du torchon, un certain William Atkinson, en fait vénitien, et qui porte un nom, son vrai nom, de nature à tromper son monde, Guglielmo Angelucci. La vie se fait théâtre, où s'arrête l'une, où commence l'autre. Et dans ce théâtre s'invitent, sans se faire annoncer, des dizaines d'épisodes tout droit venus d'Alexandre Dumas. Sauvez la réputation de Marie-Antoinette, mais l'aventure de notre trio ne vous rappelle rien ? D'Artagnan et ses mousquetaires, eux aussi, avaient accouru en Angleterre. Eux aussi, tout dévouaient à leur reine Anne d'Autriche. Et eux aussi, pour récupérer, non des écrits injurieux, mais des ferrets de diamants. Quand on aime vraiment la vie, on ne se contente pas de théâtre, il vous faut du roman d'aventure. Vive Covent Garden, vive les bords de la Tamise. Beaumarchais se sent chez lui dans cette foule grouillante. Sa chère rue Saint-Denis n'est pas loin, ni ses halles bien-aimées. Enfin, Guglielmo est retrouvé. À condition de recevoir une somme à définir, il acceptera de détruire ses dissertations. Comme Morande, le Vénitien est bien plus maître chanteur qu'éditeur. Quand on peut se faire payer un écrit, pour quelle raison s'épuiser à le distribuer, puis attendre qu'il se vende ? Je me souviens de ma prime jeunesse. Certains grands reporters m'avaient pris en affection et me transmettaient quelques petites recettes utiles pour bien vivre sans trop se fatiguer. « Quand tu seras un peu plus vieux, me disait-il, et par suite plus connu, il te suffira de faire comme nous. Tu annonces ton projet de te lancer dans la biographie que tout le monde attend, celle de l'avionneur Marcel Dassault, et tu promets des révélations gênantes. La secrétaire du milliardaire ne manquera pas de prendre contact avec toi, et comme nous, tu seras reçu dans le bureau légendaire du rond-point des Champs-Élysées. Ne t'inquiète pas, l'entretien durera peu. Quand on fournit en mirage l'armée française, on n'a pas trop de temps à perdre. « Je serai vous, grincera M. Dassault sans quitter son cache-nez, je serai vous, jeune homme, j'abandonnerai votre projet. » Et il ouvrira un coffre-fort dont il sortira une poignée de gros billets. Revenons à l'an de grâce 1774. L'accord ayant fini par être trouvé, William Guglielmo accepte d'indiquer l'endroit où sont entreposés les ouvrages malfaisants. Beaumarchais et ses deux acolytes y courent et les brûlent. Angelucci attend la fin des flammes pour annoncer, la bouche en cœur, qu'il ne s'agissait là que d'une petite moitié du stock. On tuerait volontiers cette tête à claque, mais l'honneur de la reine est en jeu. On se contrôle, on reprend son calme, nouvelle négociation, nouvel accord, départ de la petite bande vers la Hollande pour se débarrasser du solde. Amsterdam. Dans un premier temps, Angelucci joue le jeu pour lequel il a été rémunéré. D'autres exemplaires du brûlot sont détruits. Mais soudain, alors qu'on peut penser l'affaire réglée, plus de nouvelles. Le Vénitien s'est évanoui. Grâce au réseau de Morande, pour lutter contre un faisan, rien ne vaut un aigre fin, on apprend que l'Angelucci s'est enfui en Allemagne pour y lancer une autre édition de la fameuse dissertation à la branche espagnole. Qu'à cela ne tienne, sautons sur nos chevaux et suce aux malhonnêtes. La suite de l'histoire hésite entre la vérité, domaine glacé du certain, et cet espace flou où l'on ne sait ce qu'il emporte du mensonge, de l'imagination et de la commodité. Les faits avérés sont les suivants. Le 20 août, Beaumarchais arrive à Vienne, hirsute, les os quasi rompus, ensanglanté de partout, le visage lacéré de griffures. Il frappe à la porte du palais royal, se présentant comme envoyé du roi de France, en charge d'un message personnel pour l'impératrice, rien moins. Malgré son triste état, ou grâce à lui, il est reçu. Et il présente à Marie-Thérèse le document pour lequel on a, raconte-t-il avec force terrifiant détail, tenté de l'assassiner dans la forêt de Neustadt. La mère de Marie-Antoinette hoche la tête, prend connaissance du texte. Après avoir convenu qu'en effet il n'est guère gentil pour sa fille, elle fait enfermer Beaumarchais, le temps de quelques vérifications bien légitimes. Un mois plus tard, tout est bien qui finit bien. Pierre-Augustin retrouve sa liberté et peut revenir à Paris la tête d'autant plus haute que d'excellentes nouvelles l'y attendent. L'ami Sartine vient d'être promu ministre, ministre de la Marine, la réforme Maupeou est annulée, les anciens parlements rappelés, chacun sait que le blâme sera bientôt levé, il suffit d'attendre, vive la vie. Peut-on imaginer que 3 mois plus tôt, cet agent secret du nouveau roi, cet homme de confiance était solennellement blâmé, c'est-à-dire le personnage le plus déshonoré du royaume. Peut-on imaginer que ce policier subalterne et parallèle, ce coureur de bas-fonds, ce chasseur de bandits à travers l'Europe entière, ce combattant de ses mains avait été, il y a peu encore, l'un des financiers les plus puissants du royaume, habillé de dentelles, nourri d'ortolans, dormant dans la soie. Feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas et de ne point ouïr ce qu'on entend. Surtout de pouvoir au-delà de ses forces, avoir souvent pour grand secret de cacher qu'il n'y en a point, s'enfermer pour tailler des plumes et paraître profond quand on est, comme on dit, que vide et creux. Jouer bien ou mal un personnage, répandre des espions et pensionner des traîtres, amollir des cachets, intercepter des lettres et tâcher d'ennoblir la pauvreté des moyens par l'importance des objets, voilà toute la politique où je meurs. Eh, c'est l'intrigue que tu définis. La politique, l'intrigue volontiers, mais je les crois un peu germaines. Mariage de Figaro, acte 3, scène 5. Un siècle plus tard, l'Allemagne sera l'ennemi. Pour l'heure, notre détestation permanente, c'est l'Angleterre. Non contente de s'opposer tout le temps et partout à la France, l'Albion, plus que jamais perfide, invite et nourrit dans sa capitale tous les serpents qui pourraient nous nuire. Les espions et greffins, les philosophes et républicains, deux insupportables engeances souvent réunies dans la même personne, des maîtres chanteurs, et des prostituées des deux sexes. Régulièrement, Paris envoie des agents à Londres pour tenter d'y faire le ménage. En cette fin des années 1770, le principal souci londonien des ministres français s'appelle Charles de Beaumont, plus connu ou plutôt mieux masqué sous le nom du Chevalier d'Eon, l'une des légendes du XVIIIe siècle, l'un des personnages qui en incarne le mieux l'ambiguïté joueuse et la liberté désespérée. Né à Tonnerre, Bourgogne, le 5 octobre 1728, il commence sa vie par un peu d'avocature, avant d'opter pour le métier des armes. C'est ainsi que, durant la guerre de 7 ans, 1756-1763, il participe à de nombreux combats. Sa bravoure lui vaut d'arriver au grade de capitaine, capitaine des dragons, et son intelligence convainc ses supérieurs de l'envoyer de l'autre côté de la Manche pour certaines vérifications classées secret défense. Depuis toujours, et Hitler ne fera pas exception, l'ensemble des stratèges du continent européen ont rêvé d'envahir l'Angleterre. Le chevalier d'Eon a pour mission de rassembler les données utiles à ce futur débarquement. À Londres, il commence par mener grand train, en même temps qu'intrigue, fascine ou bouleverse l'aménité de ses traits et la délicatesse de ses manières. Dans cette ville de masques et de mélanges incertains, on s'interroge de plus en plus. Serait-il Dieu possible que ce trop beau militaire soit, en fait, une femme? Charles Minaud laisse chuchoter, mais jamais s'approcher. Il a retenu du cardinal de Retz l'utile leçon selon laquelle on ne sort jamais qu'à ses dépens de l'ambiguïté. Laquelle ambiguïté, si l'on sait bien y faire, peut devenir un royaume où la vie, diverse et libre, vaut d'être vécue. Hélas, les politiques commençaient son volage. Leur rêve change comme girouette au vent. Telle idée, hier objet de tous les soins et soutenue par tous les financements, passe soudain de mode. On oublie ceux qui avaient cru à cette idée et lui avaient donné leur vie. Ils avaient vécu dans l'intimité des dieux puisque, dans leurs rêves, ils se retrouvent seuls et désargentés. Occupés ailleurs désormais, les dieux n'ont pas la tête à payer les factures de l'idée ancienne. À l'Élysée, j'ai bien connu l'un de ses proches puis rejeté. Il s'appelait François de Grossouvre. Depuis le début de l'aventure politique de François Mitterrand, il en avait été l'intime, le confident des secrets les plus secrets. Après la victoire de 1980, il avait suivi le mouvement et rejoint le cabinet du nouveau président, qui n'avait pas manqué de lui confier des missions d'autant plus valorisantes que hautement confidentielles. Et puis, suite à différents dérapages, notamment avec Kadhafi en Libye, le flux des attentions du monarque s'était tari. On ne demandait plus rien à l'ex-indispensable, sauf de s'occuper des chasses à Chambord et de l'organisation du brame des cerfs. Il attendait dans son bureau du palais un appel qui ne venait pas. C'est là qu'il s'est tiré une balle dans le cœur, le 7 avril 1994. Drame de l'amour. À Londres, Charles de Beaumont se trouve dans cette situation malheureuse et donc dangereuse pour le pouvoir qu'il a employé. Le chevalier Déon commence à dire et à faire n'importe quoi. On l'entend même proférer des menaces. Et s'il venait à son esprit aigri l'idée de révéler les plans français de débarquement? Le ministre Vergène demande à Beaumarchais de bien vouloir aller calmer les pleurés. Quelle joie pour lui de retrouver Londres, ses dames piquantes, sa bière abondante et sa musique si dansante. Sur les bords de la Tamise, on parle beaucoup d'Amérique. Il paraîtrait que là-bas, les colonies anglaises réclament leur indépendance. Le chef des rebelles s'appellerait Washington, et on annonce pour bientôt la venue d'un de ses proches, un Quaker nommé Franklin, par ailleurs inventeur du paratonnerre. Pour l'heure, avant de dompter la foudre et d'aider les peuples à disposer d'eux-mêmes, il faut calmer cet irascible et mystérieux chevalier. Vergène avait vu juste. Les deux personnages, également sujets de comédie, amoureux l'un comme l'autre de la liberté de l'aventure et aussi peu scrupuleux sur les moyens, avaient beaucoup pour se plaire. D'autant qu'à cette époque, le chevalier se maquille et se vêt le plus souvent de robes. Où Beaumarchais a-t-il donc la tête pour croire au déguisement? Tout le temps de leur rencontre, il n'en démordra pas. Le chevalier Déon est une femme, un peu âgée certes, et quelque peu flétrie, mais encore capable d'émouvoir. Et c'est en homme séduit, ou du moins touché, qu'il va plaider sa cause. De retour à Paris, il répète au ministre que cette malheureuse doit être pardonnée de ses frasques, remboursée de ses frais, dûment pensionnée, et bien sûr autorisée à revenir en France. Elle devra simplement remettre ses documents compromettants, et surtout cesser ses enfantillages, jurer de ne plus jamais s'habiller en homme, et moins encore dans ce ridicule accoutrement de capitaine. Le chevalier Déon signe la transaction, traverse la Manche, et jamais avare de provocation, se présente au roi Louis XV en dragon. Vite, on la confie à Marie-Antoinette et à son habilleuse, ce joli militaire deviendra leur poupée. À ceux qui, tel Beaumarchais jusqu'à la fin de sa vie, demeurent convaincus que l'espion était espionne, je tiens à leur disposition le rapport d'autopsie ordonné à la mort d'Éon. Il est formel. Après avoir été toute ma vie honnête homme, zélé citoyen et brave militaire, je triomphe d'être femme. Mémoire du chevalier d'Éon. Couchant sur la terre, la dure et ma selle pour oreiller.
C'était Beaumarchais, un aventurier de la liberté, par Éric Orsena. À la technique, Alain Joubert. Réalisation, Rafik Zénine. La grande bataille, quand on criait.